Bien, bonjour à tous. Donc, on vous a dit que je m'appelais Charles Bonnet. Je commence à être un vieux, ça fait 50 ans que je suis prêtre. On a fêté ça solennellement cette année. Et comme prêtre, j'ai toujours été formateur de prêtres, pratiquement, en France et en Afrique. J'ai passé 13 ans de ma vie en Afrique, au Dahomey et en Côte d'Ivoire, qui à l'époque était calme. Depuis que je suis parti, ça s'est beaucoup dégradé. Et puis le reste du temps, pratiquement à Issy-les-Moulineaux, j'étais professeur supérieur. J'ai même été supérieur de la Société des prêtres de Saint-Sulpice qui s'occupe de la formation des prêtres. Et j'ai fini ma vie active à Lyon, au séminaire Saint-Irénée et au séminaire universitaire. Et maintenant, j'assiste à la déformation de mes confrères. Je suis supérieur de la maison de retraite des Sulpiciens, dont je suis encore pour quelque temps le plus jeune, mais ça ne va pas durer. Bon, comme le plus vieux a 96 ans, j'en ai que 76, j'ai encore un bel avenir devant moi. Enfin, si je dure aussi longtemps que lui. Alors, pendant les temps où j'étais formateur de prêtres à Lyon, en Afrique, à Issy-les-Moulineaux, après avoir pendant un temps enseigné les questions de morale sociale, petit à petit je suis parti sur le mariage, l'affectivité, le célibat, etc. Et je continue encore à faire des interventions sur ce sujet. Alors, devenir un en Christ, je l'ai connu par un Lyonnais, Gilles Chassé, enfin Lyonnais, il n'est pas de... mais Gilles Chassé, que vous connaissez peut-être. C'est lui qui m'a embrigadé quelquefois dans des interventions, et ça continue encore d'une façon ou d'une autre. Grâce à lui ou à cause de lui, j'ai déjà fait un certain nombre de sessions dans différents endroits, soit avec des membres de Devenir en Christ, soit avec plusieurs fois des parents ayant des enfants homosexuels, et un peu dérouté par cela, ou même avec des couples dont l'un des membres était marqué par l'homosexualité, qui devait retrouver un peu son équilibre. Alors aujourd'hui, on m'a demandé quelque chose de beaucoup plus général. Sur le papier, c'est marqué « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Mais surtout derrière cela, c'est justement de réfléchir ensemble sur conscience éclairée et liberté. Je dirais même, puisque conscience éclairée est éclairée par quoi ? Par la loi. Donc conscience, loi, liberté, c'est un petit peu là-dessus que je vais intervenir. Alors ce soir, plutôt en centrant d'une façon générale, comment la conscience, la loi, nous aide à faire vivre correctement notre liberté. Et puis demain, en s'intéressant plus, justement, quel rôle ça joue dans notre vie affective. Alors, peut-être que je mette une... Combien de temps
je vais mettre le micro sur un pied.
Mais oui, j'aimerais autant parce que... Ça m'éviterait de faire des déplacements intempestifs.
Ouais, alors ça, c'est encore des trucs...
Non, vous inquiétez pas, vous forcez dur.
Vous forcez dur ?
Ah voilà, ouais. Absolument. Et voilà.
Oui, ça ne vaut pas grand-chose.
Si, si, ça marche. Il ne veut pas tenir ?
Non.
Hein? Non, mais il est récalcitrant, c'est terrible. Chut. Voilà, espérons que mon souffle ne le dérangera pas trop. Ça marche ? Bon, ben alors c'est pas bien. Donc je disais que j'allais réfléchir avec vous un petit peu d'une façon générale sur le rapport entre conscience, entre loi et liberté de ce soir, et plutôt demain en intégrant davantage, que je dirais, autour des questions de la vie affective. Bon, conscience et liberté, il faut bien nous prendre conscience que c'est Dieu qui nous a donné cela pour que nous soyons proprement créateurs de nous-mêmes. Comment Dieu nous a créés, mais il veut que ce soit nous-mêmes qui nous fassions, qui nous développions, qui nous construisions. Et pour ça, il nous a donné d'une part la liberté, le fait de pouvoir nous-mêmes nous construire, et la conscience pour savoir justement ce qui est bon pour nous construire, pour savoir distinguer dans quel sens aller pour nous construire et nous développer. Autrement dit, Dieu a voulu que nous soyons les créateurs de nous-mêmes. Il nous a créés, il nous a donné l'essentiel pour demeurer, mais ce que nous devenons au cours de notre vie, il a voulu que ce soit nous-mêmes qui le fassions, à travers la liberté, où c'est nous qui choisissons dans quel sens nous construire, à travers la conscience, où c'est nous qui découvrons par notre raison, par notre intelligence, ce qui est bon pour nous, ce qui va nous construire et nous développer. Autrement dit, Dieu nous a donné à nous-mêmes le pouvoir de nous créer, de nous faire. Et avec, d'ailleurs, tous les risques que ça peut entraîner, d'un mauvais usage de la conscience, d'un mauvais usage de la liberté. Donc, Dieu nous a donné la conscience. La conscience pour savoir par nous-mêmes ce que nous avons à faire. Conscience qui peut se manifester d'une façon générale, qu'est-ce qui est bon ? Il est bon d'aimer ses frères, il est bon de ne pas mentir, il est bon d'être honnête, il est bon, enfin, tout ce qui, d'une façon générale, que faire en général ? Et puis, la conscience qui nous aide dans les cas particuliers, dans cette situation, qu'est-ce qui est le meilleur ? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va être constructif? Qu'est-ce qui va être au contraire nocif? Dans des cas de conscience où on se demande qu'est-ce qui est le mieux dans cette situation? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui au contraire est quelque chose de mauvais? Dans les cas particuliers où nous avons justement des cas de conscience où nous cherchons justement ce que concrètement nous avons de mieux à faire. Cette conscience, elle est vue comme étant en nous quelque chose de l'intelligence de Dieu qui vient en nous. Si vous voulez, si nous regardons le numéro 16 que vous avez là, sur la dignité de la conscience morale, les deux textes que vous avez sur cette page, c'est des textes qui sont tirés du Concile Vatican II, de Gaudium et Spes, l'Église dans le monde de ce temps, et justement ça m'a paru intéressant pour le 50e anniversaire du Concile Vatican II, de voir que ces textes-là sont toujours d'actualité. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qui ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser, d'aimer, d'accomplir le bien, et d'éviter le mal au moment opportun, résonne au moment opportun dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir. C'est elle qui le jugera. Vous avez un correspondant à cela dans l'Épître aux Romains, l'autre texte, où dans le chapitre 2, il explique justement aux non-juifs, aux Romains, que même s'ils n'ont pas eu la loi de Moïse, ils avaient quand même au fond de leur loi, de leur cœur, une loi. En effet, quand les païens privés de loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, les hommes sans posséder de loi se tiennent à eux-mêmes de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve de le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. Et au jour où Dieu jugera les pensées secrètes des hommes, selon mon évangile, par Jésus-Christ. Donc il dit, vous les juifs, vous étiez heureux, vous avez une loi, vous avez les commandements, vous avez les prophètes, tout ça vous dit ce que Dieu attend de vous, mais même les païens qui n'ont pas la chance d'avoir eu la révélation de Moïse, la révélation des prophètes, même eux, Au fond de eux-mêmes, ils connaissent ce qui est bien, ce qui est mal. Et si je reprends le texte de Vatican II, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur, fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. C'est une manière admirable que se découvre à la conscience cette loi qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. Par fidélité à la conscience, les chrétiens unis aux autres hommes doivent chercher ensemble la vérité et la solution juste de tant de problèmes moraux que soulève aussi bien la vie privée que la vie sociale. Plus la conscience droite l'emporte, plus les personnes et les groupes s'éloignent d'une décision aveugle et tendent à se conformer aux normes objectives de la moralité. Toutefois, il arrive souvent que la conscience s'égare par suite d'une ignorance invincible sans perdre pour autant sa dignité, ce que l'on ne peut dire lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu sa conscience presque aveugle. Donc, derrière cela, il nous dit, il n'y a pas que les juifs qui ont eu la loi, il n'y a pas que les chrétiens qui ont eu l'évangile. Tous les hommes ont en eux la raison qui leur dit ce qui est bon, qui leur dit ce qui est mal, qui les aide à choisir, qui les aide à choisir d'une façon générale. C'est bon d'aimer son prochain, c'est bon d'être honnête, c'est bon de dire la vérité, et qui les aide dans chaque circonstance particulière à découvrir ce qui est le meilleur dans une circonstance particulière. Seulement, comme le dit là, le texte dit, la conscience peut se tromper. C'est-à-dire que si nous écoutons simplement ce qui nous paraît bon ou mal en nous-mêmes, nous pouvons nous tromper. Nous pouvons nous tromper parce que nous avons été mal éduqués, nous pouvons nous tromper parce que le milieu social autour de nous pense que telle ou telle chose est bonne et que finalement nous sommes marqués par le milieu dans lequel nous vivons. Alors, c'est pour ça même que, puisque la conscience peut se tromper, que Dieu nous a donné la loi. Que Dieu nous a donné la loi, c'est-à-dire Dieu lui-même s'est impliqué dans l'histoire des hommes pour nous dire ce qui est bon, pour nous révéler ce que nous risquions d'oublier. Alors, nous pouvons le découvrir, bien sûr, déjà dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les commandements de Dieu que nous avons appris, les prophètes viennent nous révéler ce qui est bon. Et encore plus profondément, dans l'Écriture de l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. L'Évangile, le Christ est venu justement éclairer notre conscience. Le Christ est venu nous dire ce qui est vraiment bon pour nous et qui se résume, comme nous le savons, dans l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. C'est là qu'est toute la loi. Finalement, le Christ est venu non seulement nous dire, mais nous montrer, justement comment, qu'est-ce que c'est qu'aimer. Dans une vie d'homme, il est venu nous faire voir dans une vie d'homme concrète ce que c'est qu'aimer, ce que c'est à la limite de ressembler à Dieu. Et donc, c'est là que nous pouvons retrouver, nous pouvons rééduquer notre conscience. Bon, notre conscience, elle a été éduquée déjà. Déjà par nos parents, déjà par les valeurs que nous avons reçues en famille. Rendre grâce à notre famille qui nous a fait découvrir, quelquefois de façon un peu cinglante, quand on recevait une fessée ou une gifle, mais finalement c'était pour notre bien, même si on n'avait pas le sentiment à l'époque que ça nous faisait tellement de bien. C'est-à-dire que nous sommes quand même tous les fils des valeurs de nos parents, de notre famille. C'est d'abord par notre famille que Dieu nous a fait découvrir ce qui est bon. Nous devons rendre grâce à nos parents que grâce à Dieu, que grâce à eux, nous savons exactement, nous avons été éduqués, nous savons ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça a quelquefois été difficile à admettre, non pas toujours apprécié, mais se rendre compte que nous sommes les fils spirituels de nos parents. Les fils spirituels de nos parents. Les fils spirituels aussi de l'Église. Nous trouvons justement ce que nous avons à faire, nous le trouvons dans l'Écriture, dans la méditation de la Bible, de l'Ancien, du Nouveau Testament, de l'Évangile. C'est là que nous éduquons notre conscience. Et donc il est important que nous nous imprégnions de l'Évangile. Tout à l'heure j'ai dit que nous étions les fils spirituels de nos parents, je dis nous sommes les fils spirituels de l'Évangile et de l'Église qui nous le transmet. Finalement, lorsque nous participons à l'Eucharistie, lorsque nous allons à la messe et d'une façon ou d'une autre, ou même simplement nous lisons l'Écriture, il y a un grand progrès par rapport au temps où j'étais jeune, mais je ne sais pas si vous en profitez. Quand j'étais jeune, on n'entendait l'Évangile que le dimanche, quand on y allait. Maintenant que je suis devenu vieux, les Canadiens ont inventé un petit bouquin que les Français ont copié, qui s'appelle « Prions en Église ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, quand je vais dans le métro, eh bien, le matin, je découvre des tas de... Je trouve toute une série de gens qui lisent le Coran, d'accord. Mais je découvre toute une série de gens qui sont en train de lire « Prions en Église ». Et je suis frappé de voir comment des chrétiens qui, au fond, autrefois, connaissaient l'Écriture que par ce qu'on lisait à chaque dimanche, aujourd'hui, lisent régulièrement « Prions en Église » et s'en imprègnent. Je crois que c'est un sérieux progrès qui s'est fait pour éclairer notre conscience d'avoir l'occasion de pouvoir lire tous les jours quelque chose de la parole de Dieu. Alors si vous ne le faites pas, je fais de la propagande pour prier en église ou pour l'autre.
Magnificat. Comment ça,
Magnificat, oui, j'ai. C'est plus cher, mais c'est meilleur. Et plus jeune. Bon, enfin, ça m'est égal, prenez l'un ou l'autre, mais je dis, si vraiment vous voulez développer votre conscience, ces petits livres-là, il n'y a rien de meilleur. Alors pas simplement les emmener dans sa poche, les lire, les méditer et de profiter. Pour ceux qui prennent pas la voiture, du métro ou du train de banlieue, qui peuvent vous aider à le faire. Ben, je suis frappé quand même de voir le nombre de gens. Ben, d'une façon ou d'une autre, que c'est l'Écriture qui va nous apprendre, qui va nous apprendre ce que le Seigneur nous attend. Si nous voulons éclairer notre conscience, il faut l'éclairer à la lumière qu'est l'Écriture, soit sous la forme de gros bouquins, soit sous la forme d'un petit fascicule. Justement pour ne pas se tromper. Et puis pas seulement l'Écriture, mais aussi l'Église. L'Église, justement, à travers, tiens, j'ai pas, ben si, par exemple, à travers, là, j'ai un texte du Concile qui a 50 ans, mais qui est toujours d'actualité. C'est l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Bon, si vous lisez cela, vous avez quand même toute une sagesse humaine et chrétienne qui nous éclaire sur ce que nous avons à faire. Donc, écoutez l'Église, lire régulièrement des textes publiés par l'Église, ou par le pape, par des évêques, par André 23, ou par l'évêque. Qui c'est l'évêque du lieu, là, faut pas que je le...
Michel Sentier.
Ah, Michel, oui. Bon, enfin, les évêques peuvent avoir le Saint-Esprit aussi. Donc, finalement, les écouter, parce que justement, ils se rapprochent beaucoup, l'Évangile, il est général, eux, ils se rapprochent quand même beaucoup plus de l'actualité quotidienne, et finalement, les écouter, pour nous, et même pour l'État, ils se donnent même, non seulement une mission vis-à-vis des chrétiens, mais une mission vis-à-vis de toute la société. tous les débats à l'heure actuelle qu'a suscité les prises de position de André XXIII, d'Épiscopat, sur les questions du mariage pour tous, ou sur les questions de l'euthanasie, etc., c'est aussi une façon d'éclairer notre conscience. Après, je reviendrai peut-être un peu pour voir si c'est toujours quelque chose auquel on est obligé d'obéir totalement. On peut avoir une distance par rapport à cela. Mais leur volonté, c'est d'être les messagers du Christ pour éclairer, dans les conditions concrètes d'aujourd'hui, les chrétiens sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais. Et justement, ceci nous rappelle que la conscience... Vous voyez, j'ai un état de mer aujourd'hui. Bon, ceux qui ont mangé avec moi tout à l'heure vont dire que j'ai bu la crêpe au Grand Marnier qui me... Hein. Mais est-ce que j'ai lu le texte sur la dignité de la conscience morale? Je l'ai lu. Oui, c'est grave. Hein, c'est très grave. Bon, puisque je... Justement, après avoir lu ce texte sur la conscience, je rappelle que justement, la conscience peut se tromper. Notre conscience n'est jamais totalement sûre d'elle-même, et c'est pourquoi il est important qu'elle soit rééduquée, hein, elle soit rééduquée, comme je l'ai dit, par la lecture de l'Écriture, qu'elle soit rééduquée, hein, par ce qu'on appelle la loi, par l'Église, hein, et... J'ai même envie de dire, même si ça paraît curieux aujourd'hui, que même la loi civile peut éduquer notre conscience. Alors, on peut ne pas être d'accord toujours avec les prescriptions de la loi civile, surtout lorsqu'elle veut rendre obligatoire tel ou tel élément, mais finalement, la loi civile, la loi publiée par l'État, qui nous dit les règles du vivre ensemble, elle est aussi, d'une façon générale, quelque chose à écouter pour vivre correctement, le respect des lois de circulation, le respect des feux rouges, le respect qui va éviter quand même d'avoir trop d'accidents. Même la loi civile peut être pour nous une façon d'éduquer notre conscience. C'est pour ça d'ailleurs que l'Église et les chrétiens s'intéressent à la loi civile pour être sûrs qu'elle ne nous trompe pas en nous entraînant sur des chemins qui sont des chemins dangereux. Mais justement, au moment même où l'Église ou les chrétiens manifestent pour que la loi civile soit correcte à leurs yeux, c'est aussi le sentiment qu'elle est pour eux régulation de leur conscience, qu'ils attendent, ils souhaitent une loi civile qui soit juste et honnête, justement pour que leur conscience et la conscience de tous en soient éclairées. Il n'y a pas que l'Écriture, il n'y a pas que l'Église, l'État aussi, d'un certain côté, est régulateur des consciences, du moins s'il est fidèle aux objectifs de la raison. Donc, où est-ce qu'on trouve ? On a besoin de la loi. Où est-ce qu'on trouve la loi ? Où est-ce qu'on trouve ce qui est bon ? D'abord dans la méditation de l'Écriture, ensuite dans l'écoute de la loi, dans l'écoute de l'Église, et enfin dans l'écoute de la loi civile. Donc, le Seigneur nous a donné des moyens de ne pas se tromper, de ne pas se tromper d'une façon générale, parce que la conscience... Elle n'est pas simplement ce qu'elle nous dit en général, tu aimeras ton prochain, hein, tu diras la vérité, tu seras honnête dans les affaires, hein, tu ne mentiras pas, tu ne seras pas violent, etc. Mais la conscience aussi nous aide à décider dans les cas particuliers. Hein. Qu'est-ce qui est le meilleur aujourd'hui, là, par exemple dans l'éducation des enfants, dans mon métier, quelle est la pratique qui est la meilleure? Est-ce que pour réussir une affaire, est-ce que je dois arranger un petit peu les choses pour que ça passe malgré tout, ou est-ce qu'au contraire, je dois être le plus honnête possible au risque de louper une affaire? Enfin, à chaque instant, la conscience nous éclaire dans les choix particuliers que nous pouvons avoir à faire. Alors justement, la conscience peut se tromper. Alors j'ai insisté pour dire, il est important d'éclairer sa conscience, à travers les moyens que j'ai dit, à travers l'écriture, à travers l'Église, à travers aussi le dialogue avec les autres. Le fait de dialoguer avec, à travers un groupe de chrétiens, etc., sur ce qui est le meilleur, est une façon d'éclairer sa conscience. Même à travers devenir un Christ, le mouvement qui est le nôtre, à travers les difficultés qui peuvent être les autres, en s'écoutant les autres, les uns les autres, en essayant de découvrir ce qui est le meilleur dans notre situation, c'est notre conscience que nous éclairons, nous sommes voix de Dieu pour les autres. Finalement, le dialogue en petits groupes, le dialogue, alors pas simplement devenir un Christ, mais un peu partout, le dialogue entre chrétiens, dans les réunions, bon, moi je travaille beaucoup avec les équipes Notre-Dame, par exemple, d'autres c'est avec la JOG, etc. Le dialogue entre chrétiens est une façon aussi d'éclairer sa conscience. Où tout d'un coup, en se confrontant les uns les autres, on s'aperçoit que ce qui allait de soi pour nous ne va pas nécessairement de soi pour les autres et nous repose question. Non pas nécessairement en prenant la vie des autres, mais en justifiant quelquefois mieux ce que nous souhaitons faire directement. Le fait même d'être obligé de se justifier devant les autres est souvent une façon de nous éclairer. Même la discussion entre chrétiens qui ne sont pas d'accord est un progrès pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire, elle force chacun d'entre nous à mieux vérifier la valeur de ce que nous dites, de ce que nous disons, et quelquefois même à changer d'opinion parce que l'autre, finalement, nous a convaincus. Oui. Les frères sont un cadeau de Dieu. Les frères sont un cadeau de Dieu qui peut nous amener à mieux voir les choses, à mieux les juger, à ne pas se tromper ou à mieux apprécier l'ensemble des situations. Donc la conscience, elle est quelque chose qui nous est particulier à chacun d'entre nous. Nous avons tous une conscience, mais le dialogue des consciences, le dialogue entre chrétiens pour ensemble discuter de ce qui est bon dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie internationale, dans les différents engagements, dans la vie affective, c'est quelque chose qui nous aide à voir plus clair, qui nous aide à éclairer notre conscience. Alors notre conscience, bien sûr, elle peut se tromper. Elle peut se tromper et malgré tout, toute la tradition ecclésiale nous dit il faut écouter la conscience même lorsqu'elle se trompe, si nous ne savons pas qu'elle se trompe. Mais finalement, toute la tradition chrétienne nous dit bon, il faut essayer d'éclairer votre conscience, il faut essayer de voir si ce qu'elle vous propose comme bien ou ce qu'elle vous demande d'éviter comme mal, c'est ça qu'il faut faire. Mais une fois que vous êtes persuadé que votre conscience vous demande cela, eh bien, pour être fidèle à Dieu, il faut lui obéir. Autrement dit, l'Église et la tradition ecclésiale donnent tellement d'importance à la conscience qu'elle nous dit, suis ta conscience, c'est ta façon de répondre à l'appel de Dieu, c'est ta façon d'obéir à Dieu. Et si ta conscience te trompe et que tu ne sais pas qu'elle te trompe, bien sûr, tu vas peut-être faire tel ou tel dégât, mais finalement, en l'obéissant, Hein, tu montres que quand même pour toi, elle est la loi de Dieu. Hein, tu lui donnes une valeur importante, même si tu te trompes dans ce qui est bon aux yeux de Dieu, en voulant faire ce que ta conscience te présente de bon, finalement tu obéis à Dieu. Alors, c'est là qu'il est important quand même d'éclairer sa conscience pour ne pas faire trop de dégâts, mais en même temps de se dire, hein, même si je me trompe de bonne foi, hein, finalement peut-être que c'est dangereux, je vais créer des accidents, mais finalement je montre quand même ma fidélité à Dieu. La conscience est un absolu. Alors bien sûr, elle peut se tromper, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'on devait l'éclairer à travers l'écriture, à travers l'enseignement de l'Église, à travers les échanges avec les frères, à travers même la loi civile, qui peut, etc. Mais finalement, c'est toujours elle qui parle en dernier. Si je n'obéis pas à ma conscience, même lorsqu'elle se trompe, finalement, je montre mon infidélité à Dieu. Donc on a intérêt à l'éclairer, mais finalement, elle est le dernier juge pour chacun d'entre nous. Alors, obéir à sa conscience, oui, et donc on a besoin qu'elle soit éclairée, mais lorsqu'on estime l'avoir suffisamment éclairée, c'est elle qui est pour nous voie de Dieu. Et puis, vivre selon sa conscience, car il ne suffit pas de savoir simplement ce que Dieu nous demande, il faut le faire. Et c'est là que justement notre liberté va entrer en jeu. Notre liberté va entrer en jeu, car justement, j'ai la capacité, Dieu m'a laissé la capacité de choisir ce que je veux faire. Alors, il m'a donné la conscience pour que ce que je veux faire soit bon, mais finalement, tant que j'en suis resté à la conscience, je considère que ceci est bon, que ceci est mauvais, j'ai rien fait. C'est la décision, c'est la liberté qui finalement nous engage. Après tout, on peut penser tout le bien qu'il faudrait faire, tout le bien qui est souhaitable, tant qu'on ne l'a pas fait, eh bien, finalement, rien n'est fait. Alors justement, c'est là que intervient la grandeur de liberté, le deuxième texte que je vous ai donné. C'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l'estiment grandement, ils la poursuivent avec ardeur, et ils ont raison. Donc, chercher à être libre, on a raison. Seulement, on peut se tromper là aussi. Cependant, ils la chérissent, souvent ils la chérissent d'une manière qui n'est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi pourvu que cela plaise, mais même le mal. La conscience aussi est fragile, elle peut... On peut donner tellement d'importance à la liberté. L'important, c'est ce que je veux. L'important n'est pas ce qui est bon. La vraie liberté en l'homme est un signe privilégié d'image divine. Dieu a voulu le laisser à son propre conseil, pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mu et déterminé par une conviction personnelle, et non sous le seul effet de poussée instinctive ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Ce n'est toutefois que par le secours de la grâce divine que la liberté humaine blessée par le péché peut s'ordonner à Dieu de manière effective et intégrale. Et chacun devra rendre compte, rendre compte de sa propre vie devant le tribunal de Dieu selon le bien et le mal accompli. Donc, la conscience est un début. La conscience est là pour nous faire voir le souhaitable, le désirable, le bon, mais c'est la liberté c'est notre choix, c'est notre décision qui va être décisive. C'est notre choix qui va être notre choix qui va être décisif. Est-ce que finalement cette volonté de Dieu que j'ai vue, hein, je la fais, ou est-ce qu'au contraire, même ayant vu ce qui serait bon, hein, je me livre à mon caprice, je fais ce que je veux. C'est finalement nos décisions qui disent si nous prenons parti pour ou contre Dieu. Hein, c'est à travers que nos décisions que nous montrons que dans notre vie, ce qui domine, c'est l'amour de Dieu ou l'amour des autres, ou ce qui domine, c'est nos caprices. Et justement, Dieu a pris le risque de nous donner la liberté. C'est extraordinaire. Dieu a pris un risque énorme pour un bien énorme, c'est-à-dire pour que ça soit vraiment nous-mêmes qui soyons les créateurs, les constructeurs de nous-mêmes. Finalement, Dieu pourrait avoir des pantins, à la limite, qui fassent toujours sa volonté, mais finalement, ce ne serait pas eux qui la font, ils sont manipulés. Dieu a voulu justement que nous soyons des êtres non manipulés, plutôt que ce soit nous-mêmes qui nous manipulions. Dieu nous a donné la capacité de pécher pour nous donner la capacité de l'aimer vraiment. Le don de péché, c'est-à-dire c'est une grâce, une catastrophe quelquefois. Mais justement, c'est l'envers nécessaire de la liberté. Si nous n'étions pas capables de dire non à Dieu, si nous n'étions pas capables de nous détruire, si nous n'étions pas capables de faire le mal, eh bien, finalement, ce que nous faisons de bien, ce ne serait pas de nous. Pour que nous nous construisions nous-mêmes, pour que nous soyons les créateurs de notre propre sainteté, Dieu a pris le risque que nous puissions être les créateurs de notre propre destruction. Oui.
Vous pourriez répéter votre phrase, Dieu nous a donné la capacité du péché pour... Parce que c'était un petit...
La capacité de... Oui, Dieu nous a donné la capacité de pécher pour que nous, justement, nous l'aimions librement. C'est l'envers nécessaire de la liberté. Quand vous avez un pantin que vous manipulez, il fait tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas lui. Dieu a voulu que ce que nous fassions, ce soit toujours nous, que nous soyons nous-mêmes les créateurs, les auteurs de nous-mêmes. Autrement dit, il a voulu que nous soyons à son image. La liberté, c'est une façon de ressembler à Dieu. Dieu est celui qui fait ce qu'il veut faire, qui a créé le monde, qui a créé les hommes, qui a créé etc. Et justement, il nous donne son pouvoir de nous créateurs. Une fois qu'il nous a créés, il nous donne le pouvoir de nous développer, de nous construire, et aussi, par le fait même, de nous détruire. Si nous sommes les acteurs de nous-mêmes, nous pouvons nous construire, mais nous pouvons aussi nous détruire. C'est la condition même d'être créateur de nous-mêmes. La condition même d'être créateur de nous-mêmes, c'est de pouvoir nous décréer. C'est de pouvoir nous détruire. Et donc, le pouvoir de péché est le signe de la liberté que Dieu nous a donnée. Alors justement, quand même, Dieu a pris un risque énorme, comme je l'ai dit, en nous faisant pécher. Je dis en sens inverse aussi, eh bien Dieu nous a donné une chance énorme à travers le pardon. C'est-à-dire que Dieu a voulu que le péché soit jamais définitif. C'est-à-dire, quand nous péchons, quand nous nous détruisons, quand nous lui désobéissons, Dieu ne désespère pas de nous, Dieu espère toujours pouvoir nous reconstruire. Et je crois que c'était un peu le sens. Oui, c'est une façon de lire le passage qu'on a mis là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais c'est de se dire, si Dieu est pour nous, il ne nous laissera même pas être contre nous. C'est-à-dire que si Dieu nous aime, hein, finalement, Dieu est encore plus triste que nous, enfin, oui, plus triste que nous de notre péché. Hein. Finalement, nous le désespérons et il ne désespère pas. C'est-à-dire, dans un premier temps, hein, Dieu est désolé de voir que nous nous détruisons, que en choisissant telle ou telle chose qui nous paraît bonne, hein, mais qui va nous détruire. Je sais pas, moi je pourrais même prendre simplement l'alcoolisme. L'alcool c'est très bon, j'ai parlé tout à l'heure du Grand Marnier, je suis pas contre, mais l'alcool peut être dangereux, mais Dieu a pris le risque de nous laisser, de nous détruire, de nous détruire par l'alcool, mais Dieu en même temps, Dieu en est triste, Dieu en est, mais en même temps, Dieu est celui qui va chercher à nous libérer de cela, qui va chercher à nous aider à repartir. Dieu a inventé le pardon. Il a inventé la possibilité de pécher pour nous laisser la liberté, pour que nous construisions nous-mêmes. Mais il a inventé aussi le pardon, le fait que Dieu ne désespère pas de nous, même quand nous nous désespérons de nous, Dieu ne désespère pas de nous et nous propose à nouveau de repartir comme avant. Et même sans, comment dirais-je, sans s'apesantir sur le péché. Dieu n'a pas de temps à perdre avec notre péché. Je suis frappé, par exemple, de voir déjà dans la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui revient vers son père. Alors il a préparé tout un compliment pour dire: Père, j'ai péché contre le Seigneur, contre toi. Enfin, il a fait tout un discours. Il a peine le temps de le commencer que le père dit: Ouf, fous-moi la paix, mets-toi à table, etc. Quoi. C'est pareil avec Pierre. Pierre l'a renié, etc. Jésus lui pose pas: Oh là, t'es un salaud quand même, tu m'as laissé tomber, t'es un dégueulasse, etc. Non, Pierre, m'aimes-tu? C'est pour ça que j'ai envie de dire: faut pas faire un tabac avec le péché. Faut pas faire un tabac avec le péché. Nous sommes des pécheurs. Mais faut pas croire que Dieu a envie de nous entendre, nous étendre largement sur notre péché. Ce qu'il a envie, c'est de nous voir repartir. Et passer trop de temps sur le péché, comme le fils prodigue, j'ai péché contre les autres. Non, repars, revis. Pierre, tu as trahi. Il lui demande pas, tu as trahi. Pierre, m'aimes-tu? Alors vas-y, recommence, paie mes brebis, paie mes troupeaux. C'est le sacrement le sacrement de pénitence, c'est-à-dire, on ne perd pas du temps sur le passé, mais comment on va repartir, rebondir. Dieu n'a pas de temps à perdre avec notre péché. C'est du temps perdu déjà d'avoir manqué à l'amour, d'avoir manqué à tant de choses, et Dieu n'a pas envie de perdre du temps à reparler longuement. Ce qu'il a envie de voir, c'est de nous repartir, de voir repartir. Et donc je crois que il faut vivre le pardon de Dieu comme il accueille l'enfant prodigue, comme le temps de la joie. Ça y est, le passé c'est le passé. Maintenant ce qui m'intéresse c'est l'avenir. Notre Dieu est un Dieu d'avenir. Il n'a pas envie qu'on passe trop de temps sur le passé qui n'a pas été. Bon, ça n'a pas été, ça n'a pas marché. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Comment tu repars? Dieu est essentiellement un optimiste. Il ne désespère jamais de nous. Quoi que nous ayons fait, justement pour moi, passer trop de temps à réfléchir sur son passé, à redire « Ah, j'ai fait ceci, je suis un salaud », etc. Je pense que ce n'est pas faire plaisir à Dieu. Dieu nous dit « Alors, tu as assez de temps perdu, repars ». Donc, pour moi, il s'agit bien de reconnaître son péché, Mais l'important, c'est de reconnaître comment je vais vivre maintenant. Notre Dieu est un Dieu du présent, de l'avenir. Il n'a pas de temps à perdre à notre péché, y compris ce qui a été mauvais dans notre péché. Et malgré tout, il faut croire au pardon, quoi qu'on ait fait. Pour moi, le danger, c'est de croire, maintenant que j'ai péché, Dieu ne m'aime plus. Maintenant, je suis perdu. C'est pour moi la différence dans l'évangile entre Judas et Pierre. Bon, c'est pas de l'un et l'autre, c'est quand même pas ce qu'ils ont fait de mieux. Mais Judas dit, maintenant, après ce que j'ai fait, Dieu ne peut plus me pardonner. Il s'en va à la mort. Pierre, eh bien, après ce qu'il a fait, il revient. Et le Seigneur ne passe pas un temps fou à lui dire « Tu m'as trahi ». Il lui ouvre l'avenir. « Trois fois, tu as dit que tu ne me connaissais pas. Maintenant, trois fois, dis-moi que tu m'aimes. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et donc, qui nous montre que perdre du temps à trop regretter ce que nous avons fait, c'est justement une perte de temps. La conversion, c'est repartir en toute vitesse vers l'avenir. Et pas perdre son temps, pas perdre son temps au péché. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et ne pas croire. Le désespoir, justement, c'est de croire, après ce que j'ai fait, Dieu ne peut plus m'aimer. Et se dire, quoi que tu aies fait, Dieu continue à t'aimer. Quoi que tu aies fait, Dieu continue à espérer sur toi. Quoi que tu aies fait, Dieu compte encore sur toi pour repartir. Ce qu'il fait avec Pierre, Pierre m'aimes-tu, paie mes brebis, paie mes agneaux. Vous vous rendez compte, si un jour le pape tout d'un coup disait « Je ne crois plus en Dieu », on le mettrait à la porte. Mais si Jésus revenait en disant « Pierre, enfin Benoît, oh, ça peut lui arriver quand même, Benoît, m'aimes-tu à nouveau ?» On dira, ben quand même, après tout ce qu'il a fait, il reprendra. Moi, je n'en finis pas d'admirer Jésus avec Pierre. Si le pape reniait Dieu, Dieu ne le renierait pas. Et Dieu le rappellerait. Et le premier des papes n'a pas été à la hauteur. Ça aide pour les suivants. Alors, ils se disent, on ne fera pas plus mal. On fera pas plus mal. C'est bien quand même que... Moi j'aime beaucoup que Dieu ait choisi comme ça des apôtres qui ne soient pas à la hauteur, qui soient, qu'on voit un petit peu plein d'ambition, plein de jalousie, etc. Ça me plaît beaucoup, quoi. Ça me plaît beaucoup, alors non pas à cause de ce qu'ils font de mal, mais de voir que Jésus n'en désespère pas et que c'est à ces gens-là qu'il a confié l'Église. Tu es Pierre, si c'est Pierre, je bâtirai l'église. C'est un peu friable quand même comme Pierre. Les apôtres, ils ont tous... Et moi, d'abord, ça me réjouit parce que ça montre d'abord que si l'église dure, c'est pas à cause des hommes qui la gouvernent, c'est à cause du Christ qui la tient. Et puis, ça m'aide même pour moi, et pour vous aussi éventuellement, de se dire, bon, je suis prêtre. Oh, j'ai essayé d'être à peu près un bon prêtre quand même pendant 50 ans, enfin pas trop mauvais. Mais de me dire de toute façon, le pauvre type que tu étais, le type limité que tu étais, Dieu a été capable de faire avec toi bien plus que tu étais, bien plus que tu valais. Et se dire pour chacun d'entre nous, en tant que parent, en tant que membre d'une communauté, en train de se dire qu'à travers nous, qu'à travers notre témoignage, tout pauvre pécheur ou pécheresse que nous sommes, Dieu est capable de se servir de nous comme instrument. Moi je dis ça souvent aux parents, ne vous inquiétez pas d'être pécheur. L'important, c'est que vous, avec vos enfants, vous transmettiez la parole. Même si vous avez de la peine à la vivre, l'important, c'est que vous les aidiez à découvrir ce que Dieu attend d'eux et que peut-être eux vivront mieux que vous. C'est ce que je me dis quelquefois le dimanche quand je fais des sermons. Je me dis, au fond, je dis des choses auquel je crois quand même, mais quelquefois la satisfaction de voir que les gens qui m'écoutent prennent ça plus au sérieux que moi qui le dis. Alors, je pourrais m'en inquiéter, puis en même temps, ça me réjouit. Ça me réjouit de me dire, Seigneur, moi, j'ai été ton instrument. Il n'y a pas longtemps, pour mes 50 ans, j'ai rappelé une vieille parabole que j'avais créée il y a 30 ou 40 ans, qui était la parabole du gardien de téléphérique. C'était un gardien de téléphérique qui était en bas du téléphérique, et puis... Finalement, il disait aux gens, oh, le téléphérique, c'est formidable, vous allez voir, si vous montez en haut, c'est splendide, le paysage est magnifique, vous allez revenir enchanté. Mais lui, il n'avait jamais pris le téléphérique. Il était tout le temps resté en bas, il avait une trouille folle d'être dans ce truc entre ciel et terre, on ne sait pas comment ça balance, etc. Donc il avait envoyé des tas de gens voir la montagne, mais lui, il n'y était jamais monté. Et mon rêve, c'est qu'au moment de prendre sa retraite, le patron du téléphérique le prendra par le cou, le mettra dans le téléphérique, il sera vert de peur en montant, il arrivera là-haut, il dira, zut quand même, si j'avais su, je serais venu plus vite. Et puis quand même, Seigneur, j'ai été bon, il y a tellement de gens qui l'ont vu à cause de moi. Et bien moi, c'est mon rêve. Quand je finirai ma vie, je dirai au Seigneur, Seigneur, si j'avais su, j'aurais été de prier plus souvent, je t'aurais vu plus souvent. Mais je suis content, parce qu'il y a des tas de gens qui m'ont pris au sérieux et qui sont montés au sommet du téléphérique. Alors ça peut se dire pour un prêtre, ça peut se dire pour des parents. Ça peut se dire pour des parents qui peuvent quelquefois, en étant évangélisateurs de leurs enfants, faire que leurs enfants aillent plus loin qu'eux. Ou pour des catéchistes ou autres. De se dire que nous pouvons faire mieux que nous, être instrument de la parole de Dieu en faisant que ceux qui nous écoutent vivent mieux que nous-mêmes. Mais quand même, Dieu pourra quand même nous rendre cette justice que si nos paroissiens sont devenus saints, c'est un peu à cause de nous, même si nous, on n'a pas réussi à le devenir tellement. Admirez quand même les prêtres de paroisse dont vous voyez tous les défauts, bien entendu, puisque vous vivez avec eux continuellement. Mais de se dire que grâce à leurs paroles, dont la vie n'était pas toujours à la hauteur, ils ont quand même aidé beaucoup de gens à aller vers le Seigneur. Je me souviens, il y a quelques années, je peux même dire son nom, c'était Jean-Claude Barrault, vous avez dû connaître ça autrefois, non ? Non, les plus vieux. Donc Jean-Claude Barrault avait quitté le ministère, etc. Et alors j'avais une dame qui a dit, ah, mon père, pourtant, le père Barrault, il m'a converti, etc. Enfin, il m'a... Ben, je lui dis d'abord, c'est pas parce que le père Barrault a changé autre chose qu'il ne faut pas rester fidèle à sa parole. Rendez grâce à Dieu d'avoir mis le père Barrault à côté de vous pour faire la bonne chrétienne que vous pensez être. Que vous êtes peut-être aussi. Et puis je me dis que peut-être que Jean-Claude a dévié, mais quand même, je me dis que devant le Seigneur, il pourra dire quand même tous ces gens qui, par ma parole, par mon dévouement, sont devenus plus chrétiens que moi, c'est quand même pas rien. Alors je le dis pour les prêtres, mais je le dis pour les parents. Je dis de se dire que les parents, les catéchistes, les professeurs, etc., les éducateurs, de se dire que le Seigneur attend bien sûr que nous changions et que le Seigneur se réjouit déjà ce que par notre activité nous avons fait changer dans les autres, se réjouit déjà de l'instrument que nous avons été entre ses mains, même si nous avions mieux réussi à transformer ceux à qui nous parlions que nous-mêmes. Bien que de temps en temps, ça m'arrive de dire aux prêtres, comme pénitence, quand ils se confessent, que ça leur arrive, de leur demander de méditer le dernier sermon qu'ils ont fait. Méditer, de remettre en pratique le dernier sermon qu'ils ont fait. Ça les surprend sur le moment, puis ça les convertit peut-être après. À force de vouloir convertir les autres, on oublie de se convertir soi-même. mais je pense que le Seigneur nous accueillera quand même à cause de ceux qu'on aura convertis. Bon, je m'égare. Mais c'est pas faux ce que je dis quand même. Hein? Si, ce que je tenais à dire justement tout à l'heure, c'est que la conscience nous éclaire. On ne l'écoute pas toujours. On se trompe. Et l'Écriture, la parole de l'Église, la parole des frères est là pour nous corriger. Notre liberté s'égare. Elle ne nous mène pas toujours vers le bien. Elle nous fait pécher. Elle nous laisse nous tromper sur ce qui est l'essentiel, sur ce que Dieu attend de nous. Malgré tout, Dieu continue quand même à espérer en nous. Malgré tout, Dieu se réjouit du peu de bien que nous faisons, du peu de découvertes que font notre conscience. Dieu ne désespère pas de nous. Et c'est là qu'on retrouve cette parole. Hein. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même nous, quand nous agissons contre nous, Dieu est toujours pour nous. C'est ça pour moi la grande découverte de la foi chrétienne, c'est de se dire, quoi que je fasse, quoi que je rate, Dieu m'aime, Dieu ne désespère pas de moi, Dieu a envie de me prendre avec lui. De se dire, Dieu tient plus à mon bonheur que moi j'y tiens. Et c'est là quelque chose de mon espérance. Dieu tient plus à mon bonheur que moi j'y tiens. Malgré tout, il nous a donné la conscience pour nous indiquer ce qui est bon. Malgré tout, il nous a donné la liberté pour que nous allions vers notre bonheur et que nous soyons nous-mêmes les artisans de notre bonheur. Malgré tout, il nous a donné la loi, l'évangile, la parole de l'Église, la parole des autres pour corriger les erreurs de notre conscience. Malgré tout, il nous a donné sa grâce et son pardon pour réparer les bêtises de notre liberté. Finalement, Dieu a pris des risques en nous donnant la liberté, mais des risques limités. Il est toujours là, prêt à nous aider à repartir, prêt à nous aider à nous convertir, prêt à nous aider à changer de route. Et donc de se dire, à chaque fois que nous avons tendance d'être mécontents de nous, d'être malheureux de ce que nous sommes devenus, de ce que nous nous sommes faits, de ce que nous avons raté, de se dire, Dieu t'aime toujours, Dieu compte toujours sur toi, alors ne reste pas longtemps à pleurer sur tes échecs, repars, rebondis. C'est ce qu'a fait Pierre, c'est ce qu'a fait les apôtres, c'est ce qu'ont fait tous les saints. Plaire à Dieu, ce n'est pas ne jamais pécher, ce n'est pas ne jamais avoir de faiblesse. Plaire à Dieu, c'est de repartir, de rebondir, et puis même si nous ne repartons pas, même si nous ne rebondissons pas, de croire que malgré tout, malgré notre misère, malgré nos échecs, Dieu continue à nous aimer. Dieu ne désespère jamais de nous. Finalement, la conscience, la liberté, la loi nous ont été données pour que nous nous fassions nous-mêmes. Mais même si nous n'allons pas très loin dans la construction de nous-mêmes, Dieu nous aime et Dieu nous donne sa grâce pour aller plus loin, son pardon pour rebondir. Dieu finalement ne désespère jamais de nous et c'est là la source de notre espérance. Je vais m'arrêter là. Amen.